Bonjour à tous. Pour ce qui est de savoir le trajet que j'ai fait ce matin, vous ne saurez pas. Mais je peux vous dire que la sœur a commencé en disant « c'est une belle journée ». Je dirais en plus « la campagne est belle ». J'aimerais ce matin vous inviter à lire un passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. Je vous invite à lire les versets 1 à 14. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes et fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. » Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Voilà, on peut dire que hier comme aujourd'hui, Jésus est un personnage qui dérange. Il dérange par son message, il dérange par ce qu'il prétend être, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde. En plus, il est l'homme qui a mis en avant des choses comme l'amour du prochain, qui a parlé de pardon, qui a même parlé de bénir ceux qui faisaient du mal, de prier pour ceux qui persécutaient. C'est un message quand même assez révolutionnaire. Il est celui aussi qui a révélé pleinement ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. C'est comme s'il était celui qui pouvait mettre en lumière, voilà, ce qu'il y a réellement dans le cœur de l'homme. Et tout au long de son ministère, il a invité les gens à la repentance, il a invité à le suivre. Et il a dit peut-être que son fardeau était léger, mais il a aussi parlé de porter sa foi, de le suivre, de renoncer à notre vie et tout. Donc le message, j'ai envie de dire, n'était pas toujours populaire. Les hommes d'hier comme aujourd'hui sont divisés à son sujet. Certains voyaient à l'époque déjà un imposteur, parce qu'à l'époque, évidemment, on attendait le Messie. Mais certains voyaient c'est un imposteur et guettaient tout le temps la vie qu'il menait, ce qu'il disait pour voir si c'était conforme à la loi, vous connaissez. Mais certains voyaient simplement lui le fondateur d'une nouvelle religion. D'autres diront que c'était un homme à son époque qui était exceptionnel. C'était un faiseur de miracles, il avait peut-être appris ses tours quand il était en Égypte avec sa famille là. D'autres diront, ah oui, c'était vraiment un sage, qui avait un homme d'une grande moralité, qui avait de beaux discours et tout. D'autres carrément vont dire qu'il n'a pas existé, que c'est une légende. Mais pour certains, comme nous, ils vont lui, vraiment le Fils de Dieu, le Dieu qui s'est fait homme, celui qui accomplit les prophéties, qui est vraiment le sauveur du monde, mais qui est devenu leur sauveur personnel. Et quand Jésus vivait sur cette terre, vous avez vu en lisant les évangiles, il a souvent été opposé aux chefs religieux. Il n'y a pas de conflit entre Jésus et les gens du peuple, mais il y a souvent conflit entre Jésus et les chefs religieux. Et les chefs religieux, pourtant, on le sait, c'est eux qui avaient la connaissance de l'Écriture. Et malgré cette connaissance de l'Écriture, ils n'ont pas reconnu l'envoyé de Dieu. Ils ne voyaient pas qu'il accomplissait les prophéties à son sujet. Ils n'ont pas su discerner. Ils ne voyaient pas dans ce simple charpentier, fils d'une famille peut-être pas très riche, hein, vu les offrandes qu'ils ont faites, c'était des gens qui étaient plutôt pauvres. Ils n'ont pas su reconnaître leur Dieu, leur Sauveur, le Messie, annoncé dans des Écritures qu'ils sondaient régulièrement. Et Jésus leur fera le reproche. Vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il y a déjà une chose là que je pense que ça nous enseigne. Une chose assez importante quand même. Mais la connaissance des Écritures, aussi grande soit-elle, n'a jamais sauvé personne. On pourrait être un grand théologien et ne pas connaître Jésus comme son sauveur personnel. On pourrait être capable de dire des tas de choses sur Jésus, d'expliquer toutes les prophéties, sans vraiment connaître le Messie. Les pharisiens, pour beaucoup, hein, pas tous, il y en a qui se sont convertis, mais pour beaucoup, n'ont pas répondu à l'appel à la repentance, à la foi en Jésus. Certains l'ont fait, et on voit dans les actes que beaucoup de prêtres se convertissaient, mais au moment de Jésus, à part Nicodème qui faisait peut-être le responsable d'un groupe, peu l'ont reconnu, ils l'ont plutôt rejeté jusqu'à aller à s'arranger pour qu'il soit condamné. Alors avant notre parabole, il y a deux autres petites paraboles. Il y a la parabole des deux fils, hein, où le maître envoie un travailler et dit oui, enfin où il dit non, je crois le premier, et puis finalement il se repent, il y va, et le deuxième dit oui, et il n'y va pas. Et après il y a la parabole du vigneron. Hein? Donc le maître a mis une vigne, il la donne pour l'entretien, tout ça, il envoie ses serviteurs chercher la récolte, il maltraite ses serviteurs, tout ça, il envoie après le fils, et ils vont jusqu'à tuer le fils, et là, quand il pose la question, que fera ce maître, bah, c'est même les pharisiens qui répondent, bah, voilà, qui va faire tomber en gros la condamnation sur eux. Et les chefs religieux, là, par rapport aux paraboles là, ou aux trois là, le texte dit, ils l'ont compris, hein, ces paraboles. Et ils savent que Jésus est en train de parler pour eux. Hein, ce n'est pas parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus qu'ils n'étaient pas intelligents. Non, au contraire, ils étaient instruits, ces personnes. Et là, ils ont bien compris que Jésus est en train de leur parler directement. Je vous rappelle aussi que dans la culture juive, le repas est quelque chose d'important. Pour nous aussi, hein, c'est important, hein, le repas. Mais dans la culture juive, il y a quand même dans ce repas l'image, l'idée qu'un jour Dieu mangera avec son peuple. Je rappelle aussi que dans l'évangile, beaucoup de scènes se passent autour d'un repas. Et le repas, on en prend un en souvenir de Jésus qui est la scène. La Bible dit aussi à la fin, dans l'Apocalypse, qu'un jour on sera invité au repas de noces de l'agneau lorsqu'il sera venu reprendre son église. Mais pour dire combien c'était quand même ancré dans la culture juive, au chapitre 14, il est dit « Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu les paroles de Jésus dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Ok ? Donc quand Jésus parle de ce roi qui fait des noces, le repas, l'invité, ils ont tout de suite bien percuté de quoi Jésus est en train de parler. Alors on va essayer de voir un peu comment les auditeurs de Jésus ont pu comprendre cette parabole. Et parce qu'ils l'ont compris. Hein. Il est dit, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. À la fin de la parabole, un peu plus loin, donc, ils vont se consulter sur les moyens de piéger Jésus. Hein, le message de Jésus a été clair pour eux, ça les a bousculés et tellement dérangés que maintenant, ils commencent à réfléchir, il faut piéger Jésus et après, ils vont réfléchir sur les moyens de le mettre à mort. Alors, ça veut dire donc cette réaction que, un, ils ont compris la parabole, s'adresse à nous. Hein, il n'a pas parlé par énigme, il a donné un message clair. Mais pour nous, on peut interpréter que s'ils ont bien compris ces paraboles, puisqu'ils ne se remettent pas en question, mais qu'au contraire, ils endurcissent leur cœur et disent qu'ils veulent essayer de piéger maintenant Jésus, bah, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul, je dirais, ils sont donc inexcusables. Ils sont inexcusables de ne pas se repentir. Parce que dans la parabole, ils ont bien compris que c'est eux qui maltraitent les serviteurs et qui tuent le fils. Hein, et on peut déjà voir presque un aspect prophétique de ce que Jésus va vivre peu de temps après. Et c'est donc à eux que l'invitation est déjà annoncée. Ils ont endurci leur cœur et je dirais, ils se sont enfermés dans leur religion. Et j'ai presque envie de dire, ils se sont enfermés dans leur compréhension de la loi. Et attention, Jésus, avec ce message, je dirais, révolutionnaire qui les bouscule et tout, s'ils acceptent ce message, leur statut social tombe. Ils ne seront plus les gens respectés, à qui on met devant, hein, qu'on vient saluer. Et les pharisiens étaient aussi des gens qui, au niveau de la finance, ça marchait bien. Hein. Ce n'était pas simplement instruits de la loi, ils savaient comment on achetait les terrains et comment on les faisait fructifier et tout. On peut se dire aussi une chose, être avec une aussi grande connaissance de l'Écriture, et après être aussi proche de Jésus, je parle de, géographiquement, j'allais dire, le voir, pouvoir l'entendre, pouvoir écouter tout ce qu'il dit, réfléchir et tout, et pourtant, en même temps, avoir un cœur autant éloigné. Hein? C'est comme avoir la vérité toute proche de soi, mais cette vérité, elle ne passe pas la porte du cœur. Maintenant, attention quand même à pas tomber dans le piège de penser que Jésus n'aimait pas les pharisiens, parce qu'il est aussi mort sur la croix pour eux, et son sang a coulé aussi pour les purifier. Et c'est pas parce que les discours entre Jésus et les pharisiens nous paraissent un peu sévères qu'il faudrait penser que Jésus ne les aimait pas. Jean 3,16 dit toujours, car Dieu a tant aimé le monde, et même les pharisiens. Hein, ça c'est juste dans ma version, mais... Ok ? Mais dans les trois paraboles, une chose qu'on peut quand même noter, c'est toute la patience de Dieu. Hein? Il envoie des serviteurs, ça ne va pas, il renvoie des serviteurs, après il renvoie le fils. Hein? Il y a un appel constant à la repentance, mais ça montre vraiment la patience de Dieu. Et cette patience de Dieu, on la voit bien aussi avec un peuple païen, c'est quand Dieu va envoyer... pas le poisson, mais celui qui était dedans, Jonas, pardon, j'allais dire Josué. Il a envoyé Josué à Ninive pour les appeler.
Jonas.
C'est quoi?
Jonas, Josué après.
Ah oui, pardon, c'est ça. Bon, enfin, lui, là, il est envoyé à Ninive pour prêcher la repentance, hein, alors que leur péché était déjà certainement élevé. Et ils se repentent et Dieu, ah ben voilà, il ne fait pas tomber le jugement. Et d'après ce que j'avais étudié un peu ici, c'est 400 ans après, simplement, que Ninive sera détruite. On voit plusieurs passages comme ça. Lorsqu'il est parlé de la conquête du pays de Canaan, il dit, attendez, mais le péché des Amoréens, je ne sais plus quoi, n'est pas encore à leur comble. Voyez, Dieu est patient et a toujours cette espérance, j'ai envie de dire, que les gens se repentent. L'Ancien Testament montre que Dieu envoyait régulièrement des prophètes. Et là, on peut voir par ses serviteurs qui sont envoyés ou qui sont pour appeler les gens au repas, on peut avoir cette image de Dieu qui a envoyé régulièrement des prophètes pour amener son peuple à la repentance, à la marche dans l'obéissance. Mais pourquoi ? Dieu voulait juste voir un peuple qui lui obéit ? Ben non ! Dieu voulait que le peuple lui obéisse pour pouvoir le bénir. Rappelez-vous les bénédictions qui sont prononcées à la sortie du pays d'Égypte. Hein? Si vous marchez dans l'obéissance, tout ça, je vous bénirai, vous aurez à manger, vous aurez ceci, vous aurez cela, hein? Le dernier iPhone et tout le bazar, et ben, ils ont préféré marcher, bien souvent, dans la désobéissance. Mais cette parabole nous montre aussi que c'est Jésus qui est ce fils de roi. Et il vient en tant que fils encore les appeler à la repentance. Il est celui qui accomplit l'écriture et va quasiment accomplir la parabole qu'il est en train de prêcher. Quand nous disons ce que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 53, vous rappelez tous à Ésaïe 53, qui a cru à notre prédication, tout ça, et les décrits des souffrances de Jésus, et à la fin on voit la résurrection de Jésus. Et quand on pense que ces chefs religieux, ils lisaient des passages comme ça, ils travaillaient les textes, ils les enseignaient, c'était lu tous les dimanches, tous les jours de sabbat, pardon, hein, c'était lu régulièrement, je veux dire, ils étaient quand même pétris de cette loi, on peut quand même se poser la question, comment ces chefs religieux ont-ils pu être aussi aveugles sur l'identité de Jésus ? Et vous savez ce que je pense souvent, moi là, c'est fait une petite parenthèse, c'est que dans le milieu évangélique, par rapport au retour de Jésus, hein, on sait tous qu'il y a 1357 versions et qu'il y en a certainement des autres en route, hein, chacun son petit schéma, dans toutes les églises que j'ai été, des fois je voyais des bancs, des canons, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Et moi je me dis, faisons attention nous en tant qu'évangéliques d'être pas les plus aveugles sur comment se passera la fin des temps. Est-ce que c'est important de savoir comment ça va se passer? C'était une petite parenthèse. Mais je crois que les auditeurs là sont amenés à voir, comme je vous l'ai dit, la patience de Dieu au travers de l'enseignement de Jésus. Mais ils ont compris certainement aussi, les pharisiens l'ont bien compris, c'est peut-être ça aussi qui les met en colère, c'est que le jugement tombera. Et comme il est décrit là, il va tomber d'une manière assez brutale et sera sévère. Mais il va tomber sur ceux qui gardent volontairement le cœur endurci. Parce que les pharisiens ne pourront pas dire « j'avais jamais entendu l'évangile hein ». Et quelqu'un dit, la sévérité du jugement de Dieu n'a d'égal que sa patience. Alors, quel enseignement on peut en retirer pour nous en 2018 à Châtenois? Quand Matthieu il écrit son évangile, il y a environ 30 ans que Jésus est remonté vers son Père. Il y a donc 30 ans déjà de travail missionnaire, les voyages, l'apôtre Paul, tout ça, hein, d'accord. Mais ça fait aussi 30 ans que les Juifs s'opposent d'une manière générale au message de l'Évangile. Toutes les persécutions dans le livre des Actes commencent par les Juifs. D'accord. Donc les gens qui auraient dû accueillir le message et le comprendre d'une manière « Ouais, mais c'est clair, c'est vraiment ça, on nous a dit ça, hein, la synagogue et tout, mais oui, ça me rappelle, Ésaïe, tout ça, ce qu'il dit. Hein, » Eh bien, ce sont eux qui ont toujours suscité la persécution. Alors c'est vrai, on peut dire aujourd'hui, il y a toujours des gens opposés à l'Évangile, hein, particulièrement en France. Donc un ancien de Lunéville, vous connaissez sûrement, Peter Strack, nous a dit il y a quelques mois que la France était devenue le premier pays athée au monde. Il a dit ça, il y avait un silence dans le conseil. Il dit, qu'est-ce que tu dis là, Peter, t'es sûr de ce que tu racontes? Ça m'a un peu... Wow. C'est vrai, les gens opposés, il y a des persécuteurs. Et comme au temps de Jésus, nous pouvons constater que beaucoup de personnes ont un cœur qui est vraiment endurci, fermé à l'Évangile, indifférent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une recherche spirituelle, mais par rapport au christianisme, ils sont endurcis. Vous voyez ? Bon, je ne veux pas développer ce point, mais il y a des raisons pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi les gens ne veulent pas de l'évangile, pourquoi ils sont si éloignés et tout. Il y a une recherche spirituelle qui ne se fait pas toujours du bon côté. Parfois, je prends la médiathèque, la revue Psychologie Magazine, et les deux ou trois dernières pages de la revue, c'est toute la pub pour des stages Kinjong, Tai Chi, taille tout ceci ou taille cela. Des tas de stages qui sont vraiment pas donnés en plus, tout ça, et des gens sont prêts à partir une semaine, 10 jours, faire des trucs comme ça, de la méditation transcendantale, où ils regardent une bougie pendant une heure pour se vider l'esprit, tout ça, enfin, des choses. Et purée, il y a quand même une recherche qu'il y a là, puisque s'ils marquent tout ça, c'est que ça marche. Hein? Et vous avez qu'à, si vous cherchez un peu, vous verrez tout ce qu'on trouve sur la méditation. Ils disent tous les bienfaits de la méditation. Mais moi, si je vous dis, il faut méditer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre Bible, vous allez lire un texte, tout ça, vous allez réfléchir dessus, mais eux, vous voyez ça, derrière le mot méditer, mais des choses totalement différentes de nous. Hein? Et pourtant, il y a une recherche. Et même les chefs d'entreprise, tout ça, on leur fait faire des sortes de stages, hein, où ils vont parfois, ils ont des maîtres spirituels qui sont des moines, pour leur apprendre à gérer les choses et tout. Donc, il y a une recherche, et j'en chante bien, qu'il y a un besoin, il y a une dimension qui n'est pas remplie, mais ils cherchent un peu n'importe où. Quand vous faites une conférence sur un thème, vous avez bien du mal à remplir la salle. Faites une conférence sur la voyance, salon de la voyance, hein, qu'on voit, il n'y a pas longtemps. Là, il n'y a pas de problème, vous faites la queue pour acheter le ticket. Malgré ça, les missiologues disent que les gens sont plus ouverts maintenant qu'il y a 50 ou 60 ans en arrière. Donc, j'ai pas assez d'expérience pour vous dire si c'est vrai ou pas.
Ils sont plus ouverts, mais ils ne s'engagent pas.
Ils sont plus ouverts, mais ils ne s'engagent pas, alors voilà.
C'est l'engagement. Les gens aiment bien écouter des tas de choses.
Hein. Ah oui, oui, bien sûr.
Écouter, ils écoutent, mais ils ne s'engagent pas.
Voilà, tant que ça ne me coûte rien, je peux écouter. Les chefs religieux du temps de Jésus ont mis leur confiance dans leur pratique de la religion, dans leur manière de comprendre cette loi, hein, et tant que ça ne bougeait pas de ça, on est bien. Tant qu'ils agissaient selon les 10 commandements qui s'étaient créés eux-mêmes, ça allait bien. Hein. En fait, je crois que les juifs sont 660 commandements qui sont rajoutés, enfin je ne sais pas quoi. Donc tant qu'on marche comme ça, qu'on s'habille comme ça, qu'on donne la dîme, qu'on fait ceci, on fait partie du peuple de Dieu, c'est bien, on est béni. Le peu qu'ils aient un peu de rond, pas mal de gosses, ils pensaient, bah, je suis dans le bon chemin. Hein. Voilà, c'était un peu comme ça. Mais, aussi incroyable que cela paraisse, bien des gens aujourd'hui, quand on leur parle de l'évangile, ils ont du mal, vous savez quoi? Vous avez vu quand même quand vous témoignez. Vous parlez de l'évangile et tout, ils ont du mal avec la gratuité du salut offert. Ils préféreraient peut-être qu'on leur annonce un système comme les pharisiens où il faut faire des choses, et là, je mérite. Mais quand on parle que l'évangile est gratuit, bah ça bouscule l'orgueil de l'homme qui aime bien faire et recevoir. Vous voyez, hein? Je fais un travail, donc je reçois un salaire. Mais si on te dit, non, ton salaire, tu l'as sans rien faire, c'est pas normal, ça rentre pas dans la logique. Donc vous entendez des choses, c'est trop facile, et plus d'une fois, j'ai entendu, ah ben dans le cas là, si c'est gratuit, je peux faire n'importe quoi dans ma vie, et au dernier moment, je demande pardon à Dieu. Seulement, c'est pas quand est-ce qu'on le vit le dernier moment. Hein. C'est l'orgueil qui est dans le cœur de l'homme, bien souvent le ferme à la grâce de Dieu. C'est pas facile de plier le genou devant Dieu et de reconnaître qu'on a besoin de lui. Hein, c'est pas facile de se mettre à genoux et de tendre la main pour recevoir ce cadeau du pardon. Hein, parce que quand les gens me disent c'est trop facile, donc je réponds en sachant que je prends un risque, en disant c'est pas si facile que ça parce que ton orgueil t'empêche pour l'instant de plier le genou. Bon, faites pas ça avec un mec qui fait 2 mètres de haut et... Hein. Oui, on pense que c'est facile. Non, c'est pas facile. Pas du tout évident. Mais on peut trouver un encouragement dans le texte. C'est que malgré l'endurcissement des pharisiens, lui, Jésus, il a quand même accompli la mission qui lui était confiée par le Père. Hein? Il avait l'opposition d'une partie, enfin, des chefs religieux, tout ça, et de certaines personnes du peuple, mais lui, il a été jusqu'au bout de sa mission. Et je veux dire que nous, quand on annonce l'évangile, on rencontre de l'opposition, tout ça, mais notre mission, elle est d'annoncer. Hein, on est en train d'étudier les paraboles sur la croissance de l'église à Baccara. On a vu le semeur sorti pour... D'accord? n'est pas dit qu'il prépare le terrain, il n'est pas dit qu'il doit aller faire quelque chose après, mais il est dit qu'il doit être fidèle dans quoi ? Dans le fait de semer. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de fruits qu'on ne doit pas être fidèle à cette mission, même si on connaît des fois des moments de découragement et tout ça. Hein. C'est bon, je suis bien placé, je sais. Il ne s'est pas dit, si les chefs religieux ne comprennent pas qui je suis, comment le petit peuple va comprendre? Si les gens instruits dans la loi ne comprennent pas qui je suis, comment les gens du petit peuple qui savent ni lire ni écrire vont faire pour comprendre? Non, il a accompli vraiment sa mission jusqu'au bout. Je dis toujours que le Seigneur a confié à chacun de nous une mission, celle de témoigner par notre vie, par nos paroles, par nos comportements, par toutes les actions d'évangélisation qu'on peut faire, tout ça. Et n'oubliez pas, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la bonne odeur de Christ. La Bible ne dit pas « vous devez devenir la bonne odeur de Christ », comme elle ne dit pas « vous devez devenir le sel de la terre », mais elle dit « vous êtes le sel, vous êtes la lumière, vous êtes la bonne odeur de Christ ». Et la vie qu'on mène, l'évangile qu'on prêche, ben, doit amener les gens à se poser des questions sur ce qu'on vit. Des questions sur pourquoi on donne tant de place à Dieu, pourquoi que le dimanche matin on va au culte plutôt que de rester au lit ou d'aller faire du vélo. Il est parlé dans la parabole d'un habit de noces qui peut être vu par beaucoup comme symbole de la justice, de la rédemption, l'habit du salut si on veut. Mais cela peut être aussi les bonnes œuvres qui accompagnent une authentique conversion. Il y a un peu les deux lectures possibles. Et c'est vrai qu'on ne peut pas simplement, j'ai envie de dire, être sauvé en parole. Mais il y a un changement de vie qui s'opère et on est appelé à s'engager dans les œuvres que le Seigneur a placées devant nous. Et donc on pourrait voir comme ça un peu l'habit dont les gens sont vêtus là. Je pense que la preuve d'une conversion, ce n'est pas une confession de la bouche, c'est plutôt une vie qui a été transformée. Après, on peut vivre la transformation de manière différente. La réponse à l'invitation n'est pas une affaire de prédisposition innée, ni de sentiment, mais d'une décision libre et volontaire. Les neurosciences ont fait des tests avec des gens qui croyaient, qui méditaient, et puis voyaient que ceux qui avaient la foi, il y avait une partie du cerveau qui était activée alors que les autres n'étaient pas, tout ça. C'est intéressant, mais il ne faudrait pas aller après se dire mais il y en a, ils ont une partie du cerveau activée, donc ceux-là, ils vont être connectés. Et pour être évangélique, on va dire c'est les élus. En fait, ça ne marche pas comme ça. L'invitation que Dieu adresse aux hommes est toujours la même, c'est l'invitation à suivre Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Et je préfère dire à suivre qu'à se convertir, parce que le mot conversion maintenant est plus « tu t'es converti, tu as changé de religion ». Non, non, je préfère dire « je me suis engagé à suivre une personne qui est Jésus ». Vous savez souvent que les gens disent « ouais, moi pas de religion », et nous on dit « non mais je veux une relation ». Moi je préfère dire « moi je me suis engagé à suivre une personne qui est Jésus ». Ça implique donc qu'il est vivant aujourd'hui, et voilà. C'est vrai que Jésus dit que lorsqu'on le suit, on doit abandonner une certaine manière de vivre. Mais on peut être comme les pharisiens, parfois, les gens, voilà, ils sont attachés à leur religion, à ce qu'ils sont créés, à leurs croyances et tout, et ne sont pas prêts à tout abandonner pour suivre, parce qu'ils n'ont plus de repères, ils perdent leur identité, ils ne savent plus trop qui ils sont, ils vont changer d'identité, beaucoup de choses vont changer dans leur vie. Et puis il y a un prix à payer. Demandez à Marie-Ange qu'on n'a pas fait baptiser les enfants, si ça s'est bien passé. Le salut est gratuit, la Bible est claire, mais suivre chaque jour le Seigneur a un prix. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Et c'est pas toujours facile. Mais si c'est pas toujours facile, Jésus promet sa présence chaque jour à ceux qui s'engagent avec lui. Il promet de ne pas nous abandonner, de ne pas nous laisser seuls, mais d'être vraiment là avec nous au quotidien. Et même quand il y a la tempête, rappelez les disciples dans la barque, il y a la tempête, Jésus y dormait, c'est vrai, Mais il était dans la barque. Et ils sont arrivés de l'autre bord. Si nous sommes comme les pharisiens, que nous plaçons notre confiance dans ce que nous faisons, pour que le Seigneur nous regarde en disant « t'as vu, je suis un bon chrétien », on commence à devenir un peu religieux. Hein, vous pourriez faire une étude une fois sur être disciple de Jésus et être un religieux évangélique, et vous verrez que la frontière est plutôt fine. Voilà, j'aimerais conclure en disant deux choses. J'espère vraiment qu'on a tous répondu à l'invitation de Jésus et que pour chacun de nous, Jésus est devenu notre sauveur personnel, mais aussi le maître qu'on s'engage à suivre au quotidien. La deuxième, c'est que chacun de nous, nous puissions nous rappeler, ce qui a déjà été dit, Jésus a tout accompli sur la croix. Jésus ne me demande pas d'être une personne parfaite, Jésus me demande d'être une personne fidèle. Et dans la fidélité, on va tomber une paire de fois. J'aime à dire, quand on apprend à son petit garçon à faire du vélo, il tombe une paire de fois. Mais on est toujours là pour le remettre en selle, pour le pousser. Voilà, et je crois que Jésus, il est là, comme ça. À chaque fois qu'on chute, il est près de nous et qu'on dit « Ah Seigneur, j'ai chuté !» Il est là, j'ai envie de dire, pour nous remettre en selle et pour nous faire avancer. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'aimerais juste rajouter une parole que j'ai un peu comme ça eu dans la voiture, dans cette belle nature. Vous voyez, ce matin, on s'est planté dans la voiture, mais en se plantant, je me disais, on a vu tous des villages et des choses qui étaient belles. Et on était dans la nature, on trouvait que c'était vraiment beau. Et finalement, l'important, c'est quand même, on est quand même arrivé au culte. Hein? Mais je me suis dit, des fois, dans la vie chrétienne, peut-être qu'on n'est pas toujours sur le bon chemin que Dieu veut. Et je dis ça par expérience de jeunes que j'ai vus s'écarter et revenir. Mais dans le détour, parfois, qu'on a fait, qui n'était peut-être pas le plan de Dieu initial, j'ai envie de dire, Dieu peut vraiment nous apprendre et nous faire découvrir des choses. C'est-à-dire que même si à un moment donné, on n'a pas fait le bon choix, qu'on n'a pas été tout à fait sur le bon chemin que le Seigneur voulait, même dans ce côté qu'on pourrait dire qu'il a peut-être eu du mal et tout, Dieu continue à nous enseigner, à nous former. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu pour nous est vraiment inconditionnel. Hein, il n'est pas là en train de regarder est-ce que tu fais le bien ou est-ce que tu fais le mal. Non, il nous appelle à la fidélité, il nous appelle à l'obéissance. Mais quand on est désobéi, qu'on n'est pas toujours fidèle et qu'on revient après, qu'on arrive quand même au culte, eh ben, tout ce qui s'est passé va servir et va le transformer pour nous enseigner et nous faire grandir.